jamais l'aventure, juste quelques mémés qui promènent leurs chiens, ou contraire, peu importe, tant que ça les rassure d'aller compter leurs sous sur leur compte. Mais dans ma rue, il y a trois fois rien dans ma rue. Mais dans ma rue, il se passe jamais grand chose, mais tous ces trucs mis bout à bout me rendent la vie bien rose. Amusé de papy en randonnion, voûté sur leur banc qui se remémore en riant les bons souvenirs passés et puis le bon vieux temps. Mais dans ma rue, il y a trois fois rien dans ma rue. Mais dans ma rue, il ne se passe jamais grand chose, mais tous ces trucs mis bout à bout me rendent la vie bien rose. Amoureux de la flânerie, j'aime errer tout seul et me perdre dans les étals, mélanger les couleurs et les parfums qui me régalent. Mais dans ma rue, il y a trois fois rien dans ma rue. Mais dans ma rue, il ne se passe jamais grand chose, mais tous ces trucs mis bout à bout me rendent la vie bien rose. Alors je t'invite, ramène ton cul, viens faire un tour dans ma rue. Il y a trois fois rien dans ma rue. Mais dans ma rue, il ne se passe jamais grand chose, mais tous ces trucs mis bout à bout me rendent la vie bien rose.
Sa belle voiture, sa carrosse et ses jantes moteurs et rayures, qui la nettoie au moins une fois par jour, à coups de savon et un gant de velours. Moi je veux juste boire un coup, sa voiture, ses rayures, je m'en fous. Sa mécanique, ça devient vraiment pathétique. Il me parle sans cesse de ses nouveaux coups de cœur. Je connais tant ses jours que ses nuits par cœur. Il aime Jessie, Suzy et maintenant Melody. Nous voilà la raison de son pseudo-conflit interdit. Moi je veux juste boire un coup, ces histoires de plumard je m'en fous. place, personne en place et une. Seul sur lui brille la lune.
Des canards boiteux, des moutons très ennuyeux, de sacrés bécasses et des dindons de la farce véritablement chauds. En tout lieu, de tout temps, et de mémoire d'éléphant, il a toujours existé le zoo des gens. En tout lieu, de tout temps, et de mémoire d'éléphant, il a toujours existé le zoo des gens. Des gazelles aux lèvres qui pourraient nous rendre chèvres, des morues ou bien des tigresses qui ont du chien, des lapines et des maquereaux. Des mères poules inquiètes, mon poussin qui fait la tête. Y'a des triples bus, des vautours qui en abusent. Et y'a deux drôles d'oiseaux. En tout lieu, de tout temps, et de mémoire d'éléphant, il a toujours existé, le zoo des gens. En tout lieu, de tout temps, et de mémoire d'éléphant, il a toujours existé, le zoo des gens. Des vieilles taupes sacrées, des grenouilles de bénitier, des vieilles piques, des vieilles bites, des punaises de sacristie et des dragons de vertu. Des paniers de crabes aux abois, des petits rats d'opéra, y'a des poules mouillées, des chats complètement perchés et des ânes bien montés. La 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 la. Des peaux de vaches, des blaireaux, des jeunes loups qui ont les. Y'a des chauds lapins et de beaux merles sereins et d'autres vilains moineaux. Y'a des ours mal léchés, des loups de mer un peu blasés, des vieux dinosaures, des vieux singes, des gros porcs et même le lion de Belfort. En tout lieu, de tout temps, et de mémoire d'éléphant, il a toujours existé, le zoo des gens. En tout lieu, de tout temps, et de mémoire d'éléphant, il a toujours existé, le zoo des gens.
Y'a les oiseaux rares, le merle blanc, la bête noire, un malin primate et des moutons à cinq pattes, des papillons minutés.
Minute papillon.
Des oiseaux de passage, la cigale fait du tapage, des chameaux à sac, des rats de bibliothèque et des brebis égarées.
En tout lieu, de tout temps, et de mémoire d'éléphant, il a toujours existé, le zoo des gens. En tout lieu, de tout temps, et de mémoire d'éléphant, il a toujours existé, le zoo des gens.
La 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 la.
La 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 la
remplissent mes poumons et mes journées par la même occasion, jusqu'au jour où la toux fit son apparition comme un ordre de mobilisation. La fumée s'échappait comme d'un canon, mitrailleuse à répétition. Il me fallait donc monter au front pour enrayer l'invasion. Hier fumeur, un vétéran désormais de la guerre du feu et faute de mieux, j'ai signé l'armistice contre un bâton de réglisse. Je creusais ma trachée, je me sentais chaque jour un peu plus prisonnier. C'était toujours la dernière, je me torturais avec la clope du condamné. J'élevais le drapeau blanc un jour de bonne volonté. La dernière cartouche que j'ai grillée n'était rien de moins que le calumet de la paix. Je fais le deuil de ces clous de cercueil. Hier fumeur, un vétéran, vétéran désormais de la guerre du feu et faute de mieux, j'ai signé l'armistice contre un bâton de réglisse.
Du jazz, de la soul, des musiques du monde avec Elmer Jazz. Régalez-vous tous les lundis de 13h à 14h sur Radio Campus.
Et je collectionne les petites annonces dans le canard du coin. Pour te chercher, j'ai fait en vain, mais je ne trouve rien. Pourtant, je pourrais partager l'amour, tendresse, complicité, comme il est inscrit noir sur blanc, avec Léa, 34 ans, ou bien Juliette, divorce, et ses deux enfants, 32 balais, qui aiment la ville et le ciné, les virer à Saint-Tropez. Mais je préfère les grands espaces, un peu désert, un peu paumé, où la végétation menace de ses ronces vous écorcher. Mais je n'ai pas la poésie pour te charmer, pour t'épater, te faire est là une brune ravageuse aux mensurations généreuses qui s'évertue à rencontrer en me tranquille et distingue. Moi et mes envies de bouger vont certainement l'agacer. Je ne donne pas une semaine pour qu'elle me jette par la fenêtre. Quelle est cette étrange Lucie qui nous invite dans ces nuits intimes pour aller au pieu, pas pour dormir comme c'est curieux. Mais le mystère est inquiétant, le manque de sommeil gênant, c'est sûr, je ne l'appellerai pas. Passons de suite à votre choix. Mais je n'ai pas la poésie pour te charmer, pour t'épater, te faire rêver. Un brin timide et complexe qui joue avec sa destinée pour te chercher, pour te trouver.
Les petites annonces.
Je fonce dans les petites annonces. Et toujours la même Laetitia, avec ses histoires d'ascenseur en nocturne et pour quelques heures. Elle dit vous, elle dit vous soulevez le cœur. Et moi et ma tachycardie, mes vertiges et mes insomnies, c'est sûr nous pourrons la combler. Dommage pour elle, je suis désolé. Audrey préfère les tatouages, mais les miens s'en vont au lavage. Marie supporte pas la fumée, tant pis, je suis pas prêt d'arrêter. Les libertines un peu coquines, les seules et les retraités, toutes défilent dans ma liste, mais toi où peut-on te trouver? Mais je n'ai pas la poésie pour te charmer, pour t'épater, te faire.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin débarquement de Normandie. Il pense au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leurs Côtes-du-Rhône et leurs Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindes marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, y aurait 50 millions de prétendants.
Thank you. désir, désir se fait rendre. On donne à tout, mais pour donner faut prendre. Est-ce qu'on donneur, on pardonne si le désir se fait rendre. On donne à tout, mais pour donner faut prendre. Est-ce qu'on donneur, on pardonne si le désir se fait rendre. On donne à tout, mais pour donner faut prendre. Est-ce qu'on donneur, on pardonne si le désir se fait rendre.
Radio Campus Lille, 18h30.
Radio Campus, 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est dans le mettre.
Là, on peut le mettre.
Je savais pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on ne parle pas, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution, par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallais le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire ?
dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutus parents, jeune !
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela ?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça ?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de pauvre. C'est du temps que vous ne pas
aujourd'hui, mercredi 4 juin 2025, c'est la sainte victoire du PSG. Sainte victoire du PSG est la sainte patronne du triomphe des vrais croyants sur les mécréants et les chiens infidèles, alhamdoulilah. Le match va bientôt commencer. Les joueurs, camis bien ajustés et chéchia sur la tête, enlèvent leur babouche avant d'entrer sur le terrain. Ils se dirigent vers le centre et... Ça y est, l'arbitre vient de siffler le début de la partie et tout de suite, sainte victoire du PSG met la pression. Couteau à la main et ceinture d'explosifs autour de la taille. Les infidèles transalpins étouffent littéralement, pris à la gorge qu'ils sont. Il ne faut que 6 minutes au Cheikh Hakimi pour ouvrir le score. Une passe millimétrée, un contrôle orienté parfait vers la Mecque et une frappe croisée qui ne laisse aucune chance à Yann Sommer. Le stade explose de joie. La tribune des hommes laisse éclater son enthousiasme. Et pour fêter ça, certains supporters se dirigent vers la tribune des femmes pour en amener quelques-unes vers l'espace lapidation. Plus le temps passe et plus le match devient électrique. Tacle appuyé d'Abou Doui, échauffouré, carton jaune distribué à tour de bras, les nerfs sont à fleur de peau. Le stade retient son souffle, Abou Doui s'élance et marque le deuxième but à la 20e minute. Pour fêter ça, on sacrifie un mouton sur la surface de réparation, le match reprend et les occasions s'enchaînent, mais rien de concluant ni d'un côté ni de l'autre, et très vite, l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Les joueurs se dirigent vers les vestiaires où ils vont pouvoir faire leurs ablutions. Au retour des vestiaires, le rythme ne faiblit pas. C'est un véritable mano à mano. À la 63e minute, c'est récupération haute, talonnade du Hajj Dembélé en direction de l'imam Vintina qui avance et lance à Abou Doui, encore lui, en profondeur, décroise du droit dans la surface où traînent encore quelques abats de moutons et il crucifie. Et il empale l'Inter. Et c'est le troisième but marqué par sainte victoire du PSG en Ligue des Champions. Deux buts seront encore marqués dans ce match, haletant, et ce n'est pas dû au hasard. Les piliers de l'islam étant 5, c'est bien logique que le PSG en marque 5. Et en délire, la foule fait des doigts, on sacrifie son voisin Koufar après lui avoir apporté une assiette de couscous, et des pierres volent vers la tribune des femmes. En toute logique, l'imam Chalgoumi, déjà canonisé par nos soins, a refusé la canonisation de sainte victoire du PSG, surtout après avoir entendu les ignobles propos antisémites des supporters du PSG. Ce qui va définitivement à l'encontre de l'humanisme de Chalgoumi et de ses amis.
Mais Israël, le peuple israélien va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Il faut être uni. Le monde, il vous regarde. Oui. Vous savez, Israël, c'est la matrice du monde. Si Israël, elle va mal, le monde, il va mal.
Ah, faut savoir ce qu'on veut. Un PSG victorieux, Paris sans goal, ou un PSG qui perd. Paris sans nul. À mon avis, je crois que Chalgoumi et Attayo ont déjà leur préférence. Aujourd'hui, mercredi 4 juin, le soleil s'est levé, Paris Marlou aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulantes accordéons. Ça fait pas de rente, mais c'est si bon. Il va se coucher sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pachiche de Radio Campus, campusfil.com et le DAB+. Et ce soir, dans l'heure de le mettre, on vous propose donc une diffusion d'une conférence de nos camarades du Café Marxiste, et avec leur aimable autorisation, vous pourrez entendre Guillaume Soin, qui est agrégé de biologie, qui est militant marxiste, qui est syndicaliste, et qui nous présente son dernier ouvrage, paru aux éditions Delga, Fuir le progrès, le marxisme face aux enjeux scientifiques de notre siècle, climat, biodiversité, genre, IA, transhumanisme. Et ben, c'est l'heure de le mettre.
Eh bien, on approche, messieurs, dames, il reste encore de la place, on ne se bouscule pas. Eh oui, eh oui, eh oui, venez voir le grand musée parisien, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors allons-y, allons-y, on approche, il reste encore quelques places devant, mais on ne se bouscule pas, s'il te plaît, toi devant, tu restes tranquille. Merci, allons-y, c'est reparti.
Venez voir les Parisiens en cire au musée Grévin. Venez voir les statufiés que l'on peut photographier. Venez voir le jardin Bobo, visiter nos beaux ghettos. Paris, un grand Disneyland, les touristes en redemandent. Paris, musée. Paris, devient un musée. Admirez les vieilles pierres, les vitrines sous réverbère. Venez voir Paris. Crainte, tout est sécu, un poulet à chaque coin de rue. La vieille dame ne boit que de l'eau. Bienvenue à la Thalasso. Venez tous faire la fête à la maison de retraite. Une ambiance funéraire dans la grande ville de lumière. Paris, musée. Paris, devient musée.
Allons-y.
Venez voir les Parisiens en cire au musée Grévin. Venez voir les statufiés que l'on peut photographier. Venez voir le jardin Bobo, visiter nos beaux ghettos. Paris, un grand Disneyland, les touristes en redemandent. Paris, musée. Paris, devient un musée. Paris, musée. Paris, on va plus s'amuser.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Bah écoutez, merci pour l'invitation. Je félicite le Café Marxiste parce que honnêtement, je vois la progression, y compris moi, je suis accro, hein, je le dis, parce que j'étais en attente du dernier Antoine Vatan dont on parlait tout à l'heure, dernière vidéo sur le Capital. Donc ouais. C'est une chaîne qui fonctionne. Super bien, qui est très utile. Et bon, moi, effectivement, je suis déjà venu pour un livre il y a quelques années. Mais comme souvent, quand on écrit des livres, le processus d'analyse des sujets qu'on soulève nous amène toujours plus loin. Et enfin, ça nous force presque à écrire de nouvelles choses. Et donc, du coup, effectivement, moi, à chaque fois, je crois que c'est terminé. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais allé tellement loin qu'il fallait que quelque chose sorte. Mais toujours dans le prolongement, à la fois de la question de l'écosocialisme, dont je vais vous dire quelques mots, parce que c'est un thème qui est assez peu connu, finalement, dans le mouvement marxiste, hors États-Unis, parce que c'est un truc qui vient des États-Unis. Notamment dans sa critique, mais aussi peut-être dans les choses qu'on peut entendre ici par rapport notamment à la Chine, à Cuba, donc des sujets que j'ai déjà abordés un peu. Celui-ci s'appelle « Fuir le progrès », qui est un titre qui est peut-être un petit peu opaque, mais au fond, je voulais rendre hommage aux éditions d'Elga, qui ont eu la gentillesse de publier ce livre, parce que il y a quelques années, en 2007, au passage du... Comment on appelle ça, là, le village du livre à la fête de l'UMA, je suis tombé sur le stand des éditions d'Elga, dans lequel il y avait Domenico Lossurdo qui dédicaçait son livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Fuir l'histoire », avec un point d'interrogation aussi. Et donc non seulement il m'avait dédicacé ce livre que voici, avec l'ancienne maquette des éditions d'Elga, mais ce livre m'avait tellement retourné que quelque part je suis un peu revenu sur ces analyses aujourd'hui, et puis les adaptant effectivement à des questions nouvelles que lui n'a pas traitées, mais qui traitent d'une subdivision qu'il a bien analysée sur le marxisme occidental et le marxisme, disons, non occidental ou oriental, on va dire. Lui faisait une opposition qui était une opposition dialectique, non pas pour dire qu'en Occident il n'y a pas de marxiste, mais pour dire que le marxisme en Occident, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis, est marqué ou est un peu parasité par des formes philosophiques qui l'ont démarqué des endroits où le marxisme avait pu prendre le pouvoir sous la forme de partis communistes en Chine ou à Cuba ou ailleurs, ou en URSS évidemment avant, pour prendre une position qui était assez bizarre vis-à-vis des sciences. Sciences en général, moi je suis biologiste, donc j'ai tout de suite été intéressé par le rapport qu'ont les marxistes à la fois ici et en Union soviétique notamment, et puis aussi un peu à Cuba, vis-à-vis de la biologie, mais plus largement vis-à-vis des sciences. Hein. Lossurdo, c'était pas vraiment son sujet, hein, les sciences, mais comme cette dichotomie, il l'avait bien analysée, notamment le fait que le postmodernisme était passé par là, en Occident, et avait aussi un peu transformé le mouvement marxiste pour lui donner aujourd'hui une position un peu étrange, un peu de méfiance vis-à-vis de la science. Je trouvais que c'était intéressant de parler maintenant des questions qui peut-être gênent un peu le mouvement communiste, mais qui ne devraient pas le gêner si on regarde un peu l'histoire du mouvement. Fuir l'histoire, c'était un peu le point de départ. Fuir le progrès, lui rendant hommage, je pense que à travers les questions du sous-titre que je vous donne ici, hein, il s'agissait de parler de climat et de biodiversité, des sujets qui sont très actuels, mais aussi du genre, de l'intelligence artificielle. C'est vrai que dans ces derniers temps, on parle beaucoup de ce sujet-là, donc on s'en met avec une méfiance effectivement qu'on peut facilement comprendre. Hein. Ce sont des questions qui sont souvent abordées ici de façon, avec un background, si vous voulez, de méfiance en tant qu'appareil d'État. Vous savez, l'histoire du marxisme, c'est aussi le fait que l'État bourgeois, l'État capitaliste, utilise des appareils d'État, que sont l'école, que sont l'université, mais aussi la recherche scientifique, qui sont utilisés par la bourgeoisie d'une certaine façon. Et évidemment, ici, dans les pays où le communisme n'a pas gagné, on n'a pas encore gagné, on approche, si vous voulez, les questions scientifiques de façon on approche ces questions scientifiques comme si c'était l'ennemi en soi. Enfin, on fait une sorte de nouvelle dichotomie science bourgeoise, science prolétarienne, en disant, mais de toute façon, la science ne peut être que bourgeoise, et donc tout ce qui va être produit dans la recherche scientifique est forcément mauvaise, quoi, par nature. Une fois qu'on a dit ça, La première chose, alors je vais essayer d'être un peu, je vais essayer d'être un peu didactique sur le fil du livre. Il y a plusieurs parties, elles ont l'air d'être un peu décousues, mais en réalité il y a deux grandes parties. Il y a une analyse sur les questions qui sont vraiment importantes à travailler du point de vue communiste, du point de vue marxiste aujourd'hui, celle de la biodiversité et celle du climat. Et puis il y a deux questions qui n'ont pas l'air d'être liées, mais qui en réalité traduisent cette méfiance dont je parlais, qui sont l'intelligence artificielle et la question, disons, alors du genre, mais aussi plus largement la question du féminisme, sous la forme sous laquelle on en parle en Occident en ce moment. Donc une partie sur les questions qu'il faut qu'on travaille, une partie sur des questions qui devraient être dépassées autrement que telles qu'elles sont traitées aujourd'hui en Occident. Aujourd'hui, la question de l'écosocialisme revient sur le devant de la scène. Pourquoi ? Parce que finalement, l'écosocialisme, c'est le fait, comme disait le camarade tout à l'heure, que l'écologie n'est pas anti-marxiste et que le marxisme n'est pas anti-écologique. C'est ça la position de base dans l'histoire de l'écosocialisme. C'est l'histoire d'un courant de pensée qui est né aux États-Unis et qui visait d'abord au niveau des marxistes américains à dire, ben voilà, Marx a oublié quelque chose. C'est dans les années 70, c'était une crise pétrolière. Tout le monde a posé ces choses-là en disant, ben voilà, le marxisme n'a pas pensé à ça, n'a pas pensé à l'épuisabilité des ressources économiques, énergétiques, n'a pas pensé au réchauffement climatique, enfin voilà. Et donc, du coup, il fallait repenser le lien entre l'écologie et le marxisme. Ensuite, il y a une deuxième époque dans le mouvement écosocialiste, toujours américain, un peu sous la férule de gens que vous connaissez peut-être, qui s'appelle John Bellamy Foster, s'est proposé de retrouver dans l'œuvre, les textes même de Marx et Engels, des termes, enfin des pensées qui sont réellement proprement écologiques. Et puis, au fond, ces deux époques du mouvement écosocialiste, d'abord la critique du marxisme et ensuite le retour à Marx, constituent un travail théorique qui n'est pas scientifique en tant que tel, mais puis qui est plutôt de l'exégèse des textes. La preuve, c'est que tous ceux qui travaillent là-dessus, et il y a beaucoup de monde hein, aux États-Unis et puis plus largement effectivement en Europe, beaucoup de monde travaille sur ce lien entre écologie et marxisme. C'est toujours des philosophes, des sociologues, des économistes, mais il n'y a jamais de biologistes. Et ça, c'est assez symptomatique d'une position marxiste qui, en fait, ne s'intéresse pas au réel de ces questions et à l'expérience concrète qu'ont mené les pays dits socialistes ou en transition vers le socialisme vis-à-vis de la question de l'environnement. Alors qu'en tant que matérialiste, c'est peut-être la première question qu'on devrait se poser, de savoir comment Cuba a abordé les choses, comment l'Union soviétique a abordé les choses à un moment donné, dans une histoire assez complexe. Et puis d'autres pays, comme aujourd'hui, on parle beaucoup de la Chine. Et c'est un peu le troisième mouvement de cette histoire de l'écosocialisme, puisque sans devenir plus biologiste, les penseurs de l'écosocialisme commencent à s'intéresser à la Chine, par exemple. Ils s'y intéressent, même s'ils sont américains, de façon critique, bien sûr. On n'imagine pas les marxistes occidentaux ou américains dire du bien comme ça à sec de la politique, de la planification écologique chinoise, par exemple. Mais c'est peut-être plus facile pour Cuba, qui est peut-être mieux connu en termes d'agroécologie. Mais dans la politique, disons, écologique, ou de la politique énergétique au sens général de la Chine, Bellamy Foster et d'autres commencent à reconnaître aujourd'hui que des résultats probants commencent à exister et que le caractère écologique, entre guillemets, parce que ça ne se présente pas comme ça, mais en tout cas des vrais tournants en termes de politique énergétique et environnementale et de biodiversité sont faits en Chine avec derrière une planification consciente. Donc cette troisième époque devrait tous nous intéresser parce que si au début c'était vraiment quelque chose de très américain, aujourd'hui on a vraiment une ouverture vers, de façon générale, les Chinois quoi, hein, et les Cubains. Les Chinois sont encore timides dans la publication de leurs résultats, mais concrètement, tout le monde peut les voir aujourd'hui. J'ai un graphique, je pourrais vous le montrer, un graphique où on voit l'évolution de la production du CO2 par tête dans plusieurs pays, et qui me semble assez évocatrice, où j'ai mis, donc là j'ai mis trois pays, hein, j'ai mis les USA, j'ai mis l'Allemagne, et j'ai mis la Chine. Alors là, vous constatez tout de suite quelque chose qui est assez peu connu, c'est que le CO2 baisse de façon très sensible dans les pays occidentaux, n'est-ce pas? Et puis vous voyez qu'il y a un deuxième mouvement, c'est qu'il y a une augmentation assez sensible en Chine, et en 2012, il y a une première stagnation, on va dire. Il y a une première inflexion dans la production de CO2 par la Chine, d'accord? Bon, alors il faut tout de suite analyser, parce que c'est pas, ça se comprend pas directement, mais il faut quand même savoir que l'externalisation des capitaux, la désindustrialisation dans les pays occidentaux est telle que de toute façon, ce serait un miracle si on ne le voyait pas dans les courbes de production de CO2 par tête d'habitant, puisque toute l'industrie maintenant est délocalisée. On le sait tous, hein, en France, mais c'est pareil aux États-Unis. Il y a peut-être encore, vous voyez, même l'Allemagne, qui est l'un des pays, un pays européen qui a moins désindustrialisé que nous, lui-même a désindustrialisé au fond. Bon, c'est un pays impérialiste aussi, hein, concrètement. Alors que la Chine reste, c'est déjà depuis plusieurs décennies, mais la Chine reste un pays extrêmement industrialisé. C'est même l'usine du monde, hein, si on écoute. Tout ce qu'on dit sur la Chine, c'est ça, hein. C'est l'usine du monde. Et pourtant, l'inflexion que vous avez vue depuis 2012 est une inflexion planifiée politiquement. Pas un truc passif comme les courbes des pays occidentaux qui sont en réalité des trucs qui n'ont rien à voir avec l'écologie, puisque ce qui n'est plus produit ici est produit en dehors. Donc la production de CO2 liée à l'impérialisme, c'est juste qu'elle est plus produite sur les territoires eux-mêmes. Des pays européens et américains. Donc en Chine, l'inflexion en soi et même le début d'une baisse est quelque chose de tellement prodigieux que les Américains, enfin les marxistes américains ou les progressistes américains commencent à l'observer et se demandent effectivement comment critiquer cet élément-là. Évidemment que la Chine ne propose pas de désindustrialisation. Ils sont en pleine croissance. Mais la croissance s'accompagne de faits que vous savez peut-être, hein, en termes énergétiques, la Chine est leader dans toutes les énergies renouvelables aujourd'hui. D'ailleurs, à chaque fois qu'on doit dire du bien d'un pays parce qu'il a acheté beaucoup d'éoliennes ou des trucs comme ça, on dit qu'il a augmenté dans le palmarès hors Chine, parce qu'on sait que la Chine elle est numéro un partout. Ça ne veut pas dire qu'elle produit plus de CO2. Il y a des réserves immenses de charbon en Chine et ça reste la source d'énergie principale, évidemment. Mais à côté de ça, il y a vraiment une politique multidirectionnelle qui vise à réduire la production de CO2 dans un but qui est clairement écologique du point de vue chinois, du point de vue du Parti communiste chinois. En 2012, c'est le moment du congrès, du 18e congrès du Parti communiste chinois qui constitutionnalise ce qu'on appelle, enfin ce que eux appellent la civilisation écologique, qui est le terme qui va recouvrir toutes les mesures. Alors vous savez que les Chinois planifient sur 70 ans, donc ça n'a rien à voir avec ici. En tout cas, sur cette période, ils ont planifié tout. Ils ont une ligne rouge sur la production polluante pour essayer d'empêcher que le secteur privé, qui est très gros là-bas, dépasse cette ligne rouge par une politique répressive. Mais il y a aussi des politiques extrêmement volontaristes de développement des énergies renouvelables, des innovations même énergétiques, je pense à la fusion nucléaire, mais même pas seulement, aux nouvelles formes de batteries qui se fondent aussi sur des principes d'énergie renouvelable ou non épuisable. Bon, tout ça concourt au fait que, pour la première fois, est contre ce qu'on fait ici, les COP, là, vous savez, les moments où on fait de la procrastination écologique en faisant des grands engagements sur l'honneur qui ne sont jamais suivis des faits, où les gens pleurent pendant les COP parce qu'on sait très bien que de COP en COP, les Nations Unies savent très bien que de toute façon, il n'y a rien qui se passe. Pour la première fois, on a une politique chinoise qui est clairement, clairement énoncée. Donc, qui s'offre à la critique. C'est-à-dire que même si on veut critiquer cette politique, bah c'est déjà matérialiste. On critique quelque chose. Il y a peut-être des effets pervers, il y a des choses qui sont positives, mais au moins c'est quelque chose de tangible qui s'offre à la critique. Et de ce point de vue-là, si on est convaincu que le réchauffement climatique est un problème fondamental des décennies à venir, y compris social, bien sûr, hein, et très matériel, surtout pour les pays du Sud, bah, là, au moins, on a quelque chose qui se fait et qui est au moins une expérience sur laquelle pourront progresser les politiques écologiques à venir. Voilà, donc, d'où l'explication, si vous voulez, que si je reviens un peu sur ma question de marxisme occidental, des gens comme Bellamy Foster et d'autres reconnaissent, il y a un tournant presque pro-chinois chez les éco-socialistes américains, reconnaissent que là, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à analyser. Et nous, ça devrait aussi nous intéresser, nous, communistes, ici, ne serait-ce que pour résoudre certains problèmes qu'on a vis-à-vis de l'écologie en tant que telle. Voilà. Non pas pour dire qu'il faut être écologiste, mais pour dire que les questions que posent les écologistes sont en fait des questions que nous devrions nous poser sur le capitaliste. Et là, je ne vais pas rentrer dans des détails, parce que finalement... On va souvent, quand on parle d'écologie dans le mouvement communiste, ici et dans d'autres pays, on reste souvent sur, l'identification du capitalisme comme le fauteur de tous ces problèmes. Et c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire, c'est fondamental. Bien sûr que tous les éco-socialistes, y compris américains, savent que le capitalisme est responsable de tous les problèmes de l'effondrement de la biodiversité et du réchauffement climatique dans tous ses aspects et dans toutes ses conséquences. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qu'on oublie toujours. Parce que je trouve ça assez facile à trouver comme info, de démontrer le lien qui est entre les deux. Ça a été fait et refait, donc très bien. Moi j'ai voulu rajouter à ça, dans le livre, une analyse sur les potentialités des pays en voie de socialisme, ou qui l'ont été, comme l'Union soviétique, mais aussi la Chine aujourd'hui, aussi Cuba et aussi d'autres endroits, le Kerala par exemple, indien, qui est gouverné, qui a un gouvernement à majorité communiste, se retrouvent à être, et c'est peu dit, des leaders dans beaucoup de sujets que posent les écologistes ici. Alors des leaders, ça veut dire... l'agroécologie, ça veut dire la politique énergétique, ça veut dire plein de choses. Mais à chaque fois, on se rend compte de quelque chose d'intéressant de notre point de vue matérialiste. C'est qu'ils ne le font pas dans le but d'apparaître comme écologistes. Ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire. Vous voyez ? Par exemple, la Chine vit déjà des conséquences directes du réchauffement climatique. Sans entrer dans les détails, on sait très bien que l'Occident... et la dernière partie du monde où on va ressentir des choses. Hein.